On garde ces questions en réserve et on passe la parole à Thierry Veil pour le dernier exposé.
Merci Dominique et Aurore. Merci de m'avoir invité parce que moi je ne suis pas du tout un spécialiste des restructurations. Donc ce qu'on fait rapidement à la Fabrique de l'Industrie, on est un petit laboratoire d'idées, alors financé par le grand capital mais piloté par une assemblée plus œcuménique d'industriels, de syndicalistes, de journalistes, d'universitaires, pour réfléchir un peu aux enjeux et à l'avenir de l'industrie et essayer de réintéresser les différents publics à ces enjeux de l'industrie. Après une longue période, c'est Edouard qui disait, pendant 40 ans, il n'y a pas eu de politique industrielle, tout le monde s'en foutait. On trouvait que la société post-industrielle, où nous, on était intelligents et on concevait, pendant que des gens pauvres à l'autre bout du monde s'occupaient de la quincaillerie, c'était l'avenir de notre pays. Bon, visiblement, on a vu avec les élections au Royaume-Uni et aux États-Unis que quand l'industrie se délite, ça a un certain nombre de conséquences. Donc, ce qui nous réunit est la conviction que l'industrie est nécessaire à la cohésion sociale et territoriale. Je passe la page de pub, vous avez notre site web pour ceux qui en veulent plus. Alors, donc, on n'est pas spécialiste des restructurations industrielles parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt comment les éviter ou quand elles sont historiquement un peu inévitables, comment anticiper leurs conséquences négatives et comment armer les gens concernés, les territoires concernés, pour essayer d'aller mieux après. Donc mon témoignage, ça sera plutôt un témoignage d'observateur qui lit les journaux comme vous et qui entend parler de restructuration dans des termes où Edouard disait à l'instant que les gens qui parlent de Florence ne sont pas forcément ceux qui sont allés à Florence. On a parfois l'impression de points de vue très contradictoires. Et c'est normal, puisque les préoccupations qu'on a dans une situation de restructuration peuvent être très diverses. Il y a d'abord les gens qui disent « Est-ce qu'on ne pourrait pas garder les emplois tels qu'ils sont ?» C'est parfaitement logique. Les gens disent « Ça fait 30 ans que je fais ce travail, je le fais bien, je me dévoue pour l'entreprise. » Et puis tout à coup, on me dit que ça ne sert à rien, il ne faut plus le faire et mon entreprise s'en va. Je crois que c'est toi qui disais ce matin « Ça me fait bien plaisir de savoir qu'il y a des emplois qui se créent ailleurs et dans d'autres spécialités, mais ça ne résout pas mon problème. » Donc il y a des gens qui disent bah, « mon problème, c'est quand même de continuer à faire ce que je sais faire, là où je sais le faire, avec la communauté à laquelle j'appartiens. » Le deuxième point de vue, parce que la numérisation va peut-être faire disparaître certaines tâches du territoire, c'est bah, au moins que peut-on promettre aux salariés présents ? C'est-à-dire leur emploi ne va pas avoir le même contenu, mais ils vont rester dans la même entreprise, dans la même communauté de travail, et simplement on les aide à faire autre chose. Alors ça, évidemment, ça suppose un effort de formation et de requalification. On en reparlera. C'est viable à froid si on anticipe. Mais par exemple, on en parlait ce matin, quand on dit « les robots tuent les emplois », on a au moins un point d'observation au niveau des entreprises. On a fait une enquête dans toutes les entreprises qui ont bénéficié du plan Robot Start PME, c'est-à-dire une aide qu'on donne aux PME qui achètent leur premier robot. 3 ans après, les 2 tiers avaient embauché entre 1 ou 5 salariés, c'est des PME, donc c'est pas si mal. Et en plus, 85% des équipes concernées disaient « ça a amélioré les conditions de travail ». Donc, les employés présents, en l'occurrence, avaient été... ça s'était fait sans licenciement. C'est pas on en vire 10 et on en embauche 15. C'est on commence par former ceux qui sont là. Le revenu du salarié. Bon, il y a une époque où on était globalement riche. On disait, bon, bah, allez, on va coller les gens en pré-retraite à 45 ans. Et leur problème est résolu. Alors leur problème de survie matérielle, oui. Leur problème d'intégration dans une communauté, peut-être moins. La dignité et le statut du salarié, quand on propose à un mineur et un sidérurgiste, en améliorant un peu son salaire, quand on lui trouve un emploi d'agent d'entretien dans le lycée du coin, certes, il est de nouveau dans un collectif de travail, mais par rapport au statut professionnel d'aristocratie ouvrière qu'il avait avant, bah, être agent d'entretien dans le lycée du coin, c'est un petit peu moins valorisant que ce qu'il faisait, et donc ça ne suffit pas. l'emploi dans le bassin d'emploi concerné, c'est-à-dire parfois on a dit bah tant pis, il y en a qui seront au chômage, mais l'important c'est que l'emploi reste, et on fait allusion tout à l'heure à la reconversion de la sidérurgie en Lorraine dans les années 80, le pari ça a été un peu fait, bon bah les sidérurgistes on les met en pré-retraite de toute façon, on n'arrivera pas à les former, mais on ouvre des écoles d'informatique et des instituts d'informatique pour que leurs gamins ils aient un bon boulot sur place, où on fait venir des industries automobiles. Là, on ne résout pas le problème au niveau des personnes, mais on le résout quand même globalement au niveau de la population. Encore une fois, ça laisse des gens sur le carreau, mais au moins la collectivité territoriale ne se désagrège pas. Alors, ça peut être le collectif de travail, parce que même quand il y a de l'emploi pour tout le monde, je pense par exemple à la fermeture de Citroën Aulnay il y a quelques années, un ajusteur ou un chaudronnier en région parisienne nord, ça trouve 4 offres d'emploi dès que c'est sur le marché. Donc ces gens-là n'avaient pas de problème de retrouver un job, et un job aussi bien payé que celui qu'ils avaient, mais ils avaient le problème de perdre tous leurs copains, tout leur collectif, et de se retrouver dans une situation qu'ils ne connaissaient pas, même s'ils n'ont pas de perte matérielle, de perte de statut, c'est quand même un traumatisme pour les gens concernés. Ça peut être le contrôle d'entreprise, d'autonomie de décision. Alors parfois, c'est même ce qui provoque le plan social, c'est quand la famille a voulu garder le contrôle et n'a pas été capable de faire les investissements nécessaires. Mais c'est pas... Et donc, passer d'un contrôle familial relativement proche et connu des salariés dans une PME à devenir filiale d'un groupe étranger, c'est pas tout à fait non plus le même statut, même en ce qui concerne la participation au devenir de l'entreprise. Ça peut être conserver la souveraineté nationale. On en a parlé récemment à propos des chantiers de Saint-Nazaire, où là, ils ont 10 ans de carnet de commandes, donc les gens n'étaient pas vraiment inquiets pour leur emploi immédiat, en tout cas ceux qui avaient une certaine seniorité. En revanche, d'autres pouvaient être inquiets sur est-ce qu'il est raisonnable de dépendre de l'étranger pour fabriquer des sous-marins nucléaires. Et enfin, mais on en a parlé juste avant, les savoir-faire et l'écosystème technique local. Il y a une anecdote là-dessus qui me semble très significative. Quand les USA, violant tous leurs principes libéraux, ont quasiment nationalisé General Motors, on aurait pu croire que les gens qui n'ont pas bénéficié de l'aide de l'État, notamment, alors Chrysler avait été un peu aidé aussi sous d'autres formes, mais Ford n'avait rien reçu. Ford aurait pu dire, mais c'est de la distorsion de concurrence. Moi j'ai fait tous les efforts de productivité et ces abrutis qui n'ont pas su anticiper la crise, on les met sous perfusion d'argent public et ils vendent des voitures dans des conditions non compétitives. Et bien 3 ans après, le patron de Ford a dit heureusement qu'Obama a nationalisé General Motors, car si General Motors n'avait pas été sauvé par l'État, tout mon réseau de fournisseurs aurait été détruit autour de Detroit, et je ne suis pas un assez gros donneur d'ordre, moi, entreprise Ford, pour les maintenir en vie. Donc je dois ma propre survie à l'aide dont ont bénéficié mes concurrents. Enfin, la mission de la société. Bon, il y a des sociétés dont le but n'est pas d'abord lucratif. Il y a évidemment toute économie sociale et solidaire. Il y a les histoires de sociétés objet social étendu. Mais parfois, il y a des sociétés qui veulent faire quelque chose. Ben, la restructuration, ça peut consister à passer sous le contrôle effectif de ses banquiers ou de ses clients, qui vont avoir des exigences en disant « bon, vous êtes gentil, mais votre agenda social, entre guillemets, c'est pas notre problème, commencez à payer vos fournisseurs, s'il vous plaît ». Donc ça aussi, ça peut être mis en cause dans une restructuration. Donc c'est normal qu'on entende des tas de discours apparemment contradictoires quand il y a une restructuration, puisqu'on a simplement des gens qui ont des priorités de préoccupation, chacune légitime, mais éventuellement différentes, parce que privilégier... le territoire en disant bah, tant pis pour ce qui arrive aux individus, ça ne résout pas le problème de l'individu qui perd son job. Des perspectives multiples aussi, en dehors des différents problèmes. D'abord, on peut s'intéresser aux personnes, auquel cas, dans la restructuration, on va voir le problème de la formation. Je rappelle, il y a un rapport de McKinsey qui dit, alors il date déjà d'il y a 5-6 ans, donc il disait en 2025, mais à l'époque c'était un peu plus loin, le plein emploi est parfaitement possible en France, mais par rapport à la trajectoire libre, il va manquer 2,3 millions de gens suffisamment qualifiés. Alors pour eux ça voulait dire à partir de Bac plus 2, et on va avoir 2,3 millions de gens insuffisamment qualifiés, donc bac ou moins, auxquels il sera difficile de fournir un emploi. Alors la formation, je vais en parler un peu plus tard, c'est clairement le plus grand défi. Une autre perspective, si on s'intéresse aux personnes, c'est de rendre les sécurités indépendantes du statut. C'est un peu un des cours de l'histoire. Bon, il y a eu la couverture maladie universelle, de dire après tout, avant votre sécurité, votre adhésion à la sécurité sociale, elle dépendait de votre employeur. Bah, maintenant, après tout, vous avez le droit d'être malade, même si vous n'avez pas de fiche de paie. La retraite uniforme, ce qui est un des sujets en discussion actuellement, indépendamment de l'itinéraire d'emploi ou de non-emploi qu'on a pu avoir, c'est aussi de dire bah, le droit à la retraite, il faut le consolider de manière un peu universelle. Et le revenu universel ou les différents scénarios de revenu universel va aussi dans la même direction, de dire bah, il faut qu'un certain niveau de sécurité matérielle soit rendu indépendant du statut par rapport au travail. Alors, cela dit, le revenu universel ne résout que le problème du revenu, et on sait que quand les gens perdent leur travail, il n'y a pas que le revenu qui perdent, et que un droit plus large serait le droit à un accompagnement universel et personnalisé, c'est-à-dire à rester inclus. J'enfonce des portes ouvertes, je ne vais pas plus loin. Et on peut aussi focaliser non pas sur les personnes, mais sur le territoire ou sur les filières industrielles, en se disant bah, finalement on ne peut pas tout contrôler en France. La globalisation veut dire que chacun optimise un truc dans lequel il est très bon. Ça change complètement notre perception de l'industrie, parce qu'avant on voyait que les grands donneurs d'ordre, on parlait d'Airbus, de Peugeot, etc. Mais aujourd'hui une entreprise comme Valeo est plus grosse et plus puissante que Renault ou PSA. Donc peut-être il faut savoir sur quel maillon de la chaîne de valeur on peut être bon. On a vu qu'en France, par exemple, on se lamente toujours de ne pas avoir de GAFA, mais dans les objets connectés, ou dans le logiciel embarqué, ou dans la simulation des systèmes, on a quelques très bonnes entreprises. Si c'est demain les maillons critiques de la chaîne, on représente 4% du PIB mondial, 1% de la population mondiale, c'est normal qu'on ne sache pas tout faire. Le tout est de choisir ce qu'on sache faire ait suffisamment de valeur pour pouvoir le vendre. Donc accepter l'interdépendance sans être aux positions de faiblesse. Aujourd'hui, ni les Allemands ni les Français ne sauraient construire un avion gros porteur tout seul. Mais si c'était obstiné à vouloir le construire tout seul, ni l'un ni l'autre n'en produirait. Donc parfois, il faut savoir changer d'échelle et se spécialiser. Le tout est d'essayer les relations d'interdépendance. Ça marche tant que c'est de l'interdépendance symétrique. Quand c'est un qui est dépendant de l'autre, ça commence à être un peu plus compliqué pour négocier. Et alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Edouard. Je pense qu'une stratégie pour le territoire, c'est d'attirer les investissements étrangers. Mais il ne faut pas seulement les en tirer, il faut les ancrer dans l'écosystème. Bon, le Royaume-Uni a perdu son industrie à peu près au même rythme que nous. Aujourd'hui, le Royaume-Uni produit plus de voitures que la France en n'ayant aucun constructeur du Royaume-Uni. Et on disait les ouvriers britanniques sont nuls, ils ne savent pas faire une voiture. À part qu'ils ne savaient pas faire une voiture quand leur employeur s'appelait Jaguar ou Land Rover, quand leur employeur s'est appelé Tata, et pourtant les patrons indiens, ça fait parfois du dégât, tout à coup ils ont su très bien faire des voitures. Et les usines de Nissan au Royaume-Uni sont parmi les plus productives du groupe. En revanche, on a constaté au Royaume-Uni que certaines entreprises s'intégraient très bien dans l'écosystème, faisaient de la recherche avec l'université de Cambridge, s'occupaient de leur réseau de PME, avaient un réseau de sous-traitance, d'autres pas. Ça ne marche pas à tous les coups, les investissements étrangers. Mittal a racheté British Steel, ça s'est passé moyennement bien pour eux, donc ce n'est pas à tous les coups on gagne. Tata a racheté British Steel, ça s'est moyennement bien passé, donc c'est pas à tous les coups on gagne. Donc il faut attirer les investissements, mais savoir s'assurer de leur loyauté et de la réciprocité. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas « non, non, on n'aura pas de PSE pour en avoir un 3 mois après ». On a aussi peur, il y a eu beaucoup d'articles, alors notamment au moment des affaires Alstom et STX, donc il y a un mois, en disant « mais la France est colonisée par le grand capital étranger qui vient nous acheter nos entreprises et prendre leur contrôle ». Si c'était si grave que ça, on pourrait être optimiste. Parce que si on regarde la période 2000-2014, les Français ont acheté pour 200 milliards d'entreprises à l'étranger en vendant pour 150 milliards d'entreprises françaises à des étrangers. Donc de ce côté-là, on est plutôt gagnant. Et pour pouvoir faire nos emplettes ailleurs avec une certaine réciprocité, ça suppose qu'on accepte que d'autres viennent acheter des entreprises chez nous. Le problème, c'est est-ce que c'est bon ? Est-ce que finalement, il faut se réjouir que des entreprises multinationales françaises préfèrent acheter des sites de production à l'étranger que l'inverse, et qu'on achète plus de sites de produits. Enfin, si on veut de l'emploi en France, on serait peut-être très content de voir, comme les Britanniques, un flux d'investissements étrangers entrant plutôt que sortant. Je passe vite aux pistes à explorer, sauf si j'ai... Donc d'abord, alors ce qu'on essaye de faire, et ça a été un consensus, l'avantage de parler en dernier, c'est qu'on peut aller plus vite, les autres l'ont déjà dit, essayer d'éclairer les enjeux, d'expliciter les objectifs. C'est pour ça que j'ai donné les deux transparents précédents, en disant c'est normal qu'on ait des préoccupations contradictoires selon ce qu'on considère par rapport à ce sujet des restructurations. Alors, une des choses qu'on fait par exemple à la fabrique en ce moment, ça sera publié dans quelques mois, c'est comprendre qui perd quoi. Parce qu'à vouloir aider tout le monde, évidemment, on a peu de sous par personne, et donc on essaye de comprendre déjà en quoi les gens qui ont des emplois exposés à la concurrence morflent différemment quand il y a un plan social que ceux qui sont dans des entreprises où la concurrence est française, et on regarde qu'est-ce qu'ils perdent, combien ils ont perdu au bout de 3 ans, combien ils ont perdu éventuellement au niveau statut, rémunération, quel type de mobilité ils ont dû accepter pour retrouver un emploi, de manière à essayer de focaliser les politiques publiques sur ceux qui sont vraiment, alors il paraît qu'il ne faut pas dire perdants, fragiles par rapport aux restructurations industrielles, parce que plus on comprend qu'il faut aider, plus on peut les aider efficacement. Un autre exemple, c'est Pôle emploi. J'ai des étudiants qui ont travaillé dessus en disant « Pôle emploi s'épuise à devoir traiter une masse de demandes. En fait, il y a un tiers des gens qui n'ont pas besoin des services de Pôle emploi pour aller sur Internet, expliquer ce qu'ils font et retrouver un emploi. Ils ont besoin de remplir un formulaire en ligne pour toucher leur indemnisation, c'est tout. Il y a d'autres gens qui sont des cas assez faciles. On peut très bien sous-traiter au privé, à l'abattage, leur mise en relation. Et puis, il y a des publics difficiles. Il vaudrait mieux que tous les employés de Pôle emploi se concentrent pour avoir un peu plus de temps à consacrer à ces publics qui ont plus d'ennuis. Alors c'est comprendre aussi les évolutions du travail, parce qu'on ne peut pas raisonner, je veux dire, les hauts fourneaux ou les laminoirs de Florange, c'est pas forcément le modèle d'emploi qui va être le plus fréquent dans l'avenir. Donc il faut s'occuper du chauffeur Uber, du slasher, de l'intermittent du spectacle et de gens qui vont avoir des formations très différentes ou des modes d'adhésion au travail très différents. Je fais la page de pub pour un colloque qu'on fait là-dessus au Cerisy le 13 septembre 2018, donc essayer de comprendre les mutations du travail et se demander, au-delà d'avoir un emploi, pas un emploi, enfin, on est tellement obsédé par l'emploi pour des raisons évidentes de chômage qu'on en oublie le travail. Mais l'important, c'est quand même le travail, la qualité du travail. Je veux dire, être payé, c'est bien, mais avoir une raison de se lever le matin, c'est quand même un peu plus important. Et c'est directement lié, même d'un point de vue purement économique. On croit savoir qu'un travailleur un peu motivé par ce qu'il fait travaille un peu mieux. Autre piste à éclairer, tout ce qui est les structures de facilitation, notamment locales. Alors, les groupements d'entreprises d'insertion et de qualification, les entreprises à but d'emploi, c'est-à-dire les nouvelles structures mises en place par l'expérimentation zéro chômage de longue durée, les entreprises dont le but est de préparer le plus en amont possible les plans sociaux, et puis évidemment tous les syndex, les CAFI, etc., qui peuvent aider les gens à anticiper et analyser la situation. C'est augmenter la volonté des acteurs de travailler ensemble sur les territoires. On sait qu'il y a quelques territoires où ça se passe beaucoup mieux. On parle toujours du Pays de Vitré, de la vallée de l'Arve, de Yonnax, des Herbiers. On essaye de comprendre actuellement qu'est-ce qu'ils font de différent. Alors bon, on n'a pas fini de travailler, mais enfin, une des grandes parties de ce qu'ils font de différent, c'est qu'ils se causent entre eux. Et qu'ils ont, ce que disaient tous les intervenants, une approche, une anticipation et une envie de s'en sortir collectivement. Ça veut dire enrichir et apaiser le dialogue social pour que justement on puisse, on parlait de l'industrie 4.0 où les syndicats ont pris la main très tôt pour dire pas sans nous, on veut faire partie de la concertation, on veut anticiper tout de suite l'impact que ça aura sur le travail. Donc on est parti. Un, on sent qu'il faut aller dans ce truc-là. Deux, on ne veut pas que ça se traduise par une dégradation des conditions de notre travail. Donc on veut s'en occuper. Et l'essentiel, mais je développe si j'ai du temps, si j'ai fini, je m'arrête là. C'est deux minutes. Bon, c'est la formation. Enfin, on pense vraiment, et je l'ai dit, disons, pour faire court, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas très bien dans les mutations industrielles. On ne sait pas très bien combien d'emplois vont être menacés et à quel rythme. Il y a des études qui disent un emploi sur deux, il y en a d'autres qui disent un emploi sur dix. On ne sait pas très bien quels emplois vont apparaître et en quel rythme. Si on avait voulu faire de la prospective il y a 10 ans sur le nombre d'emplois d'écriture d'applications pour les smartphones, on n'aurait pas su par quel bout le prendre. Le smartphone n'existait pas il y a 10 ans et demi. En revanche, il y a un truc dont on est à peu près certain, c'est que les emplois qui disparaissent sont plutôt des emplois nettement moins qualifiés que les emplois qui apparaissent. Donc, on a une certitude, c'est qu'il faut absolument élever le niveau de qualification de tout le monde. Or, on a déjà un système de formation à bout de souffle, puisqu'aujourd'hui, il n'arrive pas à résoudre le problème du chômage de masse, alors qu'il y a des tas de métiers en tension où les industriels n'arrivent pas à recruter. Et il y a même des industriels qui localisent des unités de production à l'étranger, pas pour des raisons de coût, pas pour des raisons de qualité, mais simplement parce qu'ils ne trouvent pas le nombre d'ajusteurs ou le nombre de chaudronniers disponibles dans leur bassin d'emploi et qu'ils en trouvent en Roumanie. Alors, c'est pas pour le coût d'ouvriers roumains, parce qu'en transport, en logistique, en coordination, ils perdent largement plus que ce qu'ils économisent. C'est parce que là-bas, il y en a, tout simplement. Donc, il y a vraiment un problème de formation initiale et continue, générale et professionnelle, avec tout un statut de la formation professionnelle qui fait que quand on peut l'éviter, on l'évite. Et ça crée évidemment des tas de cercles vicieux. Ça veut dire travailler sur les contenus de la formation. Et là, il faut se prémunir. J'entends parfois dans les milieux éducation nationale, mais vous faites de la chair à machine industrielle, nous on forme des citoyens. Je pense qu'un chômeur, c'est quand même un citoyen au rabais, au niveau estime de soi, au niveau envie de participer au débat collectif, au niveau légitimité qu'on lui accorde, et que former des gens qui s'estiment et qui sont bien dans leur pompe s'ils ont un travail, c'est plutôt une étape utile et libératrice pour former des gens qui s'impliquent dans la vie de la cité. Donc je pense qu'il ne faut pas rester piégé dans ces histoires de faux dilemmes. Et ça veut dire d'énormes problèmes d'organisation entre les acteurs concernés, parce qu'ils sont très nombreux. Si je prends la formation professionnelle, il y a l'éducation nationale, il y a les conseils régionaux, il y a les partenaires sociaux. Tout ça, c'est compliqué. Plus il y a d'interlocuteurs, plus c'est dur de les faire se causer. Et il y a besoin d'articulation à tous les niveaux. Parce que autant la mise en œuvre gagne à être faite localement avec les acteurs qui sont là, autant la prospective des métiers, on la fait parfois mieux au niveau d'une filière ou de manière nationale. J'étais hier avec le responsable d'un lycée professionnel de maintenance automobile. Dit, on continuait à former des mécaniciens alors qu'on aurait pu se rendre compte que l'électronique arrivait dans l'automobile et que le mécanicien qu'on formait, il serait, en ouvrant un capot, paumé le jour où ça serait des cartes électroniques. Bon, aujourd'hui, les véhicules autonomes vont arriver. Est-ce que nos lycées professionnels de maintenance automobile prennent en compte toutes les... Donc, il y a aussi des choses à faire au niveau national. Bon, au niveau des contenus de la formation, ça veut donc dire... Tout ce qui est, mais il y a des experts beaucoup plus qualifiés que moi, gestion territoriale prévisionnelle de l'emploi des compétences, prospective sur l'évolution des métiers. Bon, ben, je viens de parler de la réparation automobile. La transition énergétique, on l'a évoqué rapidement. Aujourd'hui, toutes les solutions techniques sont là. Vous allez dans le showroom de Saint-Gobain, vous avez absolument toutes les solutions techniques pour faire des bâtiments performants. Simplement, les architectes ne les prescrivent pas, les installateurs ne savent pas les installer, et les systèmes de défiscalisation ne correspondent pas du tout à ce qu'il y a dans le catalogue des industriels. Mais à part ça, tout va bien. Toutes les solutions sont là. On pourrait faire la transition énergétique. Enfin, Mohamed Oussedik pour en dire plus là-dessus. C'est pas un problème de solutions techniques, c'est un problème d'organisation, y compris et notamment d'organisation de la formation. Et... je voudrais attirer aussi sur le fait qu'il y a des restructurations qui savent faire parler d'elles, On a un bel exemple avec Florange, il y a un joli film montrant la saga de Florange. Il y en a qui arrivent à faire parler d'eux.
Fait, hein.
Alors, non, mais ce n'est pas une critique. Il y en a qui sont encore plus forts parce qu'ils sont encore beaucoup moins nombreux et ils arrivent à beaucoup faire parler d'eux, je pense à GMS, par rapport à des entreprises où il y a beaucoup plus d'emplois concernés, mais qui savent moins se vendre, et il est utile de se vendre si on veut que l'État s'intéresse à leurs problèmes, mais il y a aussi des tables de PME qui souffrent tous les jours et où, alors ça n'est pas des restructurations au sens de plans sociaux massifs, etc., mais c'est quand même un gros problème aussi. Voilà, je suis désolé, je crois que j'ai déjà dépassé mon temps.
Merci.